les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférences à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lily Robert Foley, maîtresse de conférences à l'Université Paul-Valéry Montpellier III dans le département d'études anglophones. Lily Robert Foley est poétesse et traductrice. Elle a publié 4 livres de poésie. M, un livre de poésie critique collage. Graph Machine, un chapbook de poésie visuelle. Repère, un livre de poésie bricolage. Et The Duty to Presence, un livre d'autothéorie poétique. Elle est aussi membre de l'Outranspo, un groupe international de traduction expérimentale. Sa monographie en cours s'intitule « Experimental Translation, The Work of Translation in the Age of Algorithmic Production ». Cet ouvrage s'inscrit dans sa pratique de la traduction poétique et expérimentale. Si l'on considère que toute traduction est une expérience langagière qui consiste à rendre un texte donné dans une ou plusieurs autres langues, qu'entend-on par traduction expérimentale ? En quoi la traduction expérimentale relève-t-elle d'une autre pratique que la traduction, disons, classique ?
Merci Ludivine pour cette question qui soulève beaucoup de réponses pour moi. Donc la première chose, c'est que traduction expérimentale, pour moi, ça implique une pratique qui s'oppose aux normes de la traduction. Donc c'est déjà une pratique très située. Parce que ça, forcément, ça répond aux normes en question. Donc, c'est des normes contemporaines, déjà. Et puis, pour la plupart, occidentales aussi. Et donc, par normes de traduction, on peut penser... souvent, on pense à la fidélité. Donc, il faut être fidèle au texte. À l'équivalence, il faut rendre un texte plus ou moins de la même taille, plus ou moins égal à l'original. Et aussi de la justesse. Mais la justesse, encore, c'est une notion plus large et je crois que même les traductions expérimentales répondent à cette norme parfois qui est la justesse. Et puis dans l'époque contemporaine aussi, avec la traduction automatique, on peut rajouter d'autres normes comme la productibilité ou la prédictibilité ou la navigabilité. C'est les normes qui viennent d'une chercheuse qui s'appelle Avery Slater. Mais du coup, la traduction expérimentale, c'est un ensemble de pratiques qui s'opposent à ces normes, mais pas d'une façon bête, genre « je m'oppose ». Ça s'oppose pour interroger, pour comprendre, pour répondre, mais aussi, je pense, pour résister. Les normes très contemporaines de la technologie, enfin technologique, notamment la traduction automatique, c'est très important dans la construction de cette notion de traduction expérimentale. La traduction automatique, ça change tout pour la traduction. Ce qu'on peut appeler la traduction littérale ou fidèle, parce que la traduction automatique prend beaucoup de ce travail en charge, et du coup, on peut voir que soit ça libère le traducteur, le traductrice humaine, ou sinon ça les contraint parce qu'ils ont moins de travail. Mais de toute façon, ça pose des questions. Mais aussi, je pense que ça réifie les normes. Donc, la traduction automatique, ça a été programmée pour remplir ces attentes de la norme. Et donc, du coup, peut-être les normes fluides, changeantes, ont commencé à être plus fixes, réifiées avec le début de la traduction automatique, qui a commencé dans les années 50, à être vraiment possible ou à être vraiment un avenir possible, voilà, après-guerre. Et c'est marrant parce que la traduction automatique, ça arrive à peu près au même moment que les débuts de la traductologie. Donc, une méta-réflexion sur la traduction, ça est arrivé à peu près au même moment que ces premières tentatives de traduction automatique. Et du coup, aussi, cette pratique que j'appelle traduction expérimentale, qui s'interroge ces normes et qui donc s'oppose à ces normes et à ces avancées et ces ruptures technologiques. Un peu, enfin, je fais l'analogie ou l'allégorie avec l'avant-garde et la façon dont l'art avant-garde a répondu à la photographie. Donc, pour moi, la traduction expérimentale, ça se situe ou voilà, ça s'articule un peu comme ça, un peu voilà, pour comprendre mais aussi pour résister aux normes de la traduction qui sont fixées ou qui sont arrivées avec cette traduction automatique.
Donc ça accompagne en fait ce moment de rupture en fait. C'est un lieu de résistance, c'est ça, à la fois avec et contre. C'est les deux.
Oui, mais donc du coup ça implique tout un ensemble de pratiques très très variées et différentes qui sont les pratiques qui s'opposent aux normes de la traduction. Donc là où on aurait la traduction fidèle, on peut avoir une traduction infidèle. Ou là où on va avoir une traduction équivalente, on peut avoir une traduction inéquivalente. Donc là où on a trois mots, peut-être une traduction expérimentale va avoir 3000 mots, ou l'inverse, ou enfin, il y a plein d'exemples que je peux vous énumérer si vous le souhaitez. J'imagine que ça fait partie.
Mais j'ai l'impression que c'est pas un simple renversement en même temps, parce que là il y a aussi accumulation, il y a aussi étoffement, exagération peut-être, ou réduction, je sais pas. C'est un mouvement qui part dans tous les sens, et je le dis pas de manière péjorative, c'est ça?
Oui. Ça joue, il y a beaucoup de pratiques très très hétérogènes, donc parfois ça peut traduire autre chose que le sens, par exemple, parce que les normes de la traduction, peut-être ça implique de traduire le sens. On l'entend souvent, faut traduire le sens, faut trouver d'autres mots pour dire la même chose. Donc là, peut-être on traduit la forme des mots. Donc on peut penser à la traduction homophonique, qui est un cas d'école de traduction expérimentale. Donc, 1, 2, 3, 4, on peut traduire par, non pas par 1, 2, 3, 4, mais « Oan, tu cries fort ». Ça, c'est un exemple de traduction homophonique. Donc, on traduit la forme des mots, la matérialité des mots, au lieu du sens. Mais il y a aussi beaucoup de pratiques de traduction expérimentale qui jouent avec la machine. Donc, on aime bien aussi jouer, par exemple, avec DeepL, aller tout en bas des menus déroulants dans DeepL, qui est un traducteur automatique très bien, qui a des menus déroulants avec plein de possibilités de mots. Donc, aller tout en bas de toutes les suggestions pour trouver le moins fréquent et pour créer des phrases un peu délirantes qui n'ont pas de sens et pour un peu dérailler ou détourner la machine. Ou utiliser la traduction sur ton téléphone. Donc, utiliser, par exemple, mettre le paramétrer pour traduire l'espagnol et parler en roumain et voir ce qui apparaît. Donc, ça peut être aussi détourner la machine, mais une sorte aussi d'imitation de la machine. Donc, ça reprend parfois les mêmes logiques pour les détourner. Donc, c'est pas une opposition binaire, noir et blanc, c'est approprié pour s'interroger, détourner, mais aussi pour comprendre. Donc il y a vraiment un aspect recherche basée sur la pratique ou recherche-création dans cette pratique aussi, comme pour toute traduction, j'ai envie de dire. Mais là, ça part dans un autre sens.
Et est-ce qu'il y a un type de texte littéraire qui se prête plus à ces jeux expérimentaux en interaction avec la machine ?
C'est une bonne question. On m'a déjà posé la question. Je pense que comme texte de départ, pas tellement. Je pense qu'on peut utiliser vraiment n'importe quoi, sauf que selon la pratique, enfin selon ce qu'on va faire, il faut peut-être faire attention à la politique. Donc ne pas s'approprier la voix de quelqu'un qui ne se fait pas du tout entendre dans le monde des textes. Pour faire complètement autre chose qui n'a rien à voir avec les intentions de l'auteur ou l'autrice, mais donc plutôt des textes canoniques peut-être, ou même des textes non littéraires pour les accaparer, pour faire autre chose. Mais ça donne ce que ça donne, souvent on va le ranger avec la poésie, pas exclusivement. Il y a des exemples de traductions Je pense que ça s'appelle Métamorphose de Doug Newfer, qui fait une traduction expérimentale à partir des Métamorphoses de Kafka, ou une pièce de théâtre dont je ne me rappelle plus le nom, dont un traducteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paolo Bologna, nous a présenté une journée d'études il y a quelques jours. Donc des pièces de théâtre, etc. Mais souvent, le résultat des traductions expérimentales vont être rangés avec la poésie, pas forcément parce que c'est de la poésie, même si souvent c'est de la poésie, mais aussi parce que la poésie, c'est un peu, ça peut être un peu jouer le rôle de la poubelle de la littérature. On va mettre toutes les pratiques qui ne sont pas fiction ou autre, enfin qui n'ont pas déjà une appellation, on les range avec la poésie, mais ça, on peut appeler ça écriture expérimentale, et donc la traduction expérimentale, ça se range avec l'écriture expérimentale. Oui.
Et est-ce que c'est aussi la poésie quand même qui reste un lieu de création qui inspire la traduction expérimentale?
Je pense, oui, je pense que c'est beaucoup ça, et puis beaucoup de personnes qui font des poésies aussi hétérolingues, qui jouent sur l'autotraduction ou des créations multilingues au sein d'un seul poème. Et oui, je pense que parce que ça joue beaucoup avec la matérialité des mots. Et donc la poésie, on a tendance à penser que voilà, c'est là où on teste, on sonde la matérialité des langues. Enfin, c'est aussi ça, on joue avec la matérialité des langues, mais aussi des langues dans leur spécificité. Le sanskrit ne rend pas du tout, n'a pas du tout la même façon de signifier que l'anglais ou que l'ordou, enfin. Donc c'est aussi ça, de sonder les langues dans leur spécificité, dans leurs alphabets, dans leur structure de grammaire, etc.
Ça, même sans en comprendre le sens, par exemple?
Parfois, ça peut être sans en comprendre le sens, oui, justement. Mais voilà, je dis aussi qu'il faut faire attention aux politiques, où on se situe par rapport aux langues qu'on détourne. Mais Erin Murray, par exemple, qui est la poétesse sur laquelle je vais présenter demain, Elle a traduit plusieurs textes sans comprendre la langue. Enfin, je pense qu'elle a compris, elle comprend plus que ce qu'elle dit qu'on le comprend. Mais par exemple, elle a inventé un polynyme ou un hétéronyme qui s'appelle Elisa Sampedrine, qui voulait lire un texte de Nikita Stănescu, qui est un poète roumain. Et elle voulait le lire, cette personne inventée. Mais elle parlait pas le roumain, donc il fallait le traduire pour qu'elle puisse le lire sans parler le roumain. Donc c'est un récit, je pense que c'est aussi un peu provocatrice, mais voilà, il y a cette idée de traduire des langues qu'on parle pas, c'est très présent dans la traduction expérimentale.
Et est-ce que c'est une façon aussi d'induire en fait cette pratique vers une certaine politique quand même, d'ouverture aux autres langues, etc. Parce que beaucoup d'auteurs se sont intéressés, ou beaucoup de gens tout simplement, apprennent une langue étrangère pour lire la littérature de cette langue. Mais là, cette volonté-là, elle s'inscrit peut-être dans une politique quand même particulière.
Oui, enfin, c'est une question que je me pose beaucoup, parce que justement, j'ai entendu une fois Gayatri Spivak dire que ces pratiques de traduire sans comprendre la langue ou sans même être très intime avec une langue était une sorte d'appropriation, vraiment. Mais en même temps, quelqu'un comme Erin Murray, elle a quand même une politique d'ouverture très forte auquel je souscris vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, ou il n'y a vraiment pas de mal dans ce qu'elle fait. Donc je pense que c'est vraiment par rapport à où on se situe dans cette démarche et comment on se positionne. Mais oui, je pense que comme dans beaucoup d'avant-garde, il y a des désirs politiques. Mais ce n'est pas parce qu'on fait de la traduction expérimentale qu'on est engagé politiquement ou que nos intentions sont forcément bien réussies. Voilà. Mais ça pose la question de toute façon. Ça pose la question des politiques des langues. Donc c'est intéressant pour cette raison.
Et cette pratique-là... aide à mieux traduire ou traduire autrement.
Bah, je pense. Enfin, par exemple, j'ai pensé parce que oui, enfin, les pratiques de traduction expérimentale, on peut les utiliser pour traduire la littérature expérimentale, par exemple, ou aussi dans l'enseignement de la traduction. Mais voilà, il y a plusieurs exemples des traductions qui sont faites des textes intraduisibles en empruntant des stratégies de traduction expérimentale. Je pense notamment à une traduction d'un bout de Finnegan's Wake qui a été fait par Ludivine Boutan-Kelly et Tiffany Samayo, qui a utilisé beaucoup des procédés de Outranspo, qui est un groupe de traduction, traducteurs et traductrices expérimentales, eux. Voilà, pour traduire un texte qui est intraduisible, et ça marche plutôt bien, j'ai envie de dire.
Et l'Outranspo ?
Oui, l'Outranspo, c'est un OUXPO, donc les personnes qui écoutent ont entendu parler de OULIPO, ouvroir de littérature potentielle, c'est écrire sous contrainte. Mais OULIPO a aussi invité d'autres groupes à se former sous le rubrique de OUXPO. Et OUTRANSPO, ça fait partie, donc ouvrir de translation potentielle. Et c'est un groupe de traducteurs, traductrices, mais aussi chercheurs, chercheuses, artistes, écrivains, musiciens, etc., qui se réunissent tous les deux mois en ligne, parce qu'on est très éparpillés dans le monde, pour inventer des nouvelles procédés, pour jouer, expérimenter, tchatcher, partager des références, voilà.
Et à vous tous, là, dans les membres, est-ce que ça représente beaucoup de langues ? Est-ce que vous...
Oui, ça représente pas mal de langues, mais pour l'instant, ça reste très européen quand même. Donc, on a des grandes langues de l'Europe sans problème, anglais, français, italien, espagnol, allemand. On a aussi un peu de russe, on a aussi un peu de... Bah, on avait un peu d'hébreu, mais la personne est partie. Mais c'est quand même très beaucoup des langues occidentales, enfin pas occidentales mais coloniales. Enfin. Et on aimerait bien s'ouvrir vers d'autres horizons, voilà. Mais pour l'instant.
Ça garantit une certaine lisibilité peut-être quand même cette.
Je pense que c'est plus un effet de réseau, parce que ces liens sont faits beaucoup sur l'amitié. Aussi, et donc c'est des gens qu'on connaît, qu'on rencontre dans les colloques et des conférences et des festivals, mais aussi dans des soirées d'amis, des choses comme ça. Donc c'est un effet de réseau qu'il faut briser, enfin il faut vraiment briser, mais pour l'instant on n'a pas encore réussi.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur le concept de recherche-création et son imbrication justement avec la traduction expérimentale et peut-être avec la poésie aussi
Donc la recherche-création, voilà, c'est tout ce qui mélange recherche et création, et je dirais qu'en France c'est en plein essor et que ça intègre l'institution et les universités, etc. Et donc ça marche plutôt bien avec l'écriture créative. Mais je pense que la traduction, c'est un lieu qui est encore plus propice à la recherche-création, parce que pour moi, la traduction a toujours été ça, en fait. Ça a toujours été un lieu privilégié pour lire et aussi pour recréer. Enfin, je pense que je suis pas la seule à se dire que c'est une longue histoire, en fait, de traduire pour comprendre et aussi pour écrire. Même quelqu'un comme Antoine Berman a beaucoup étudié cette démarche chez les romantiques allemandes, par exemple. Donc ça a une longue histoire, même de herméneutique biblique, de recherche en action, de comprendre en faisant. Ça, c'est une façon de définir la traduction presque. Donc je pense que c'est un lieu très très propice pour faire de la recherche-création.
Beaucoup des doctorants et des enseignants alors qui sont acteurs de cette mouvance recherche-création sont aussi traducteurs, traductrices ?
Bonne question, une réalité. Ouais, bonne question. Oui. Enfin, parce que j'aurais pas une vision globale de la chose, mais dans mes réseaux, oui, enfin, c'est énormément les personnes qui traduisent, qui font de la recherche-création en littérature. Mais c'est aussi peut-être parce que cette chose de recherche-création, c'est peut-être une importation aussi du monde anglophone. Et donc peut-être c'est aussi quelque chose qui existe par des passages interculturels déjà. Donc c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est aussi peut-être un effet de mes propres raisons. Je ne sais pas, ouais, bonne question. On peut faire de la recherche-création sans faire de la traduction aussi. Ben, la recherche-création, ça se fait dans les arts plastiques aussi, en danse, en performance, enfin partout.
Oui, c'est à la croisée de plein de domaines. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut explorer, alors.
Oui, absolument, oui. Et puis même la traduction expérimentale, je pense que ça ouvre très facilement vers traduction intersémiotique ou vers la performance, vers la musique et les arts plastiques aussi, pourquoi pas, le film et les arts électroniques. Enfin, donc, il y a beaucoup de possibilités d'entrecroisement, justement, oui, complètement.
Ça veut dire qu'il faut se nourrir d'énormément de choses différentes, en fait, c'est ça?
Il faut tout faire. Non. Oui, enfin, je sais pas, il faut rester curieuse.
Et est-ce que ces ponts, justement, vers la danse, la performance, les arts visuels, etc., sont des possibilités ou sont des choses qui sont déjà exploitées dans la traduction expérimentale?
Oui, c'est des choses qui sont déjà exploitées dans le monde de traduction expérimentale. Oui, je cherche une bonne référence. Oui, enfin...
Sans même parler de référence, en fait, quel type de forme ça peut prendre? Est-ce que c'est une collaboration qui suit tout le long du projet ou qui arrive une fois la forme textuelle matérialisée? Est-ce que c'est de la co-création, de la collaboration?
Oui, mais tout ça, tout ça, tout ça. Oui, oui, non, mais il y a, ben, par exemple, traduire un texte en danse, par exemple, ou traduire un texte... Ou oui, donc Irène Guéraud, qui est dans Outranspo, elle a beaucoup travaillé avec des musiciens pour la mise en voix ou même en chant et en musique instrumentale des traductions homophoniques qu'on a fait avec Outranspo de ses poèmes à elle. Donc c'était vraiment une pratique de collaboration effectivement, ouais, qui a donné lieu à des performances à l'IRCAM par exemple.
Et en général, la base, enfin en tout cas le support initial pour la traduction expérimentale, c'est le plus souvent le texte. Ou est-ce que des fois, ça passe par d'autres médias?
C'est souvent le texte, je pense, parce que... Oui, parce qu'on, est des traducteurs des textes, souvent. Et donc on commence dans le texte, souvent. Et ça explose, mais pas forcément, parce que, par exemple, on a des envies de traduire des chants des oiseaux, par exemple. Donc ça commence dans le chant, j'ai envie de dire, par exemple, ou des pratiques de ekphrasis, peut-être. Pour moi, au moins dans ma définition de la traduction expérimentale, dans mon travail, j'étais assez stricte, pour des raisons méthodologiques, parce que je ne pouvais pas tout maîtriser, et puis il fallait faire une démarcation quelque part entre écriture expérimentale et traduction expérimentale, qui est très basée dans les langues. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas de différence de langue, il n'y a pas de traduction expérimentale. C'est des pratiques expérimentales, de l'écriture expérimentale, ou de performance expérimentale, de musique expérimentale. Mais tant qu'il n'y a pas cette attention à la rencontre des langues, pour moi, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction au sens propre. Traduction au sens métaphorique, pourquoi pas. Mais au sens propre, c'est cette rencontre avec une langue étrangère, entre guillemets, différente des langues.
Même quand elles sont mélangées, finalement.
Comment ?
Même quand elles sont mélangées. Puisqu'en fait, Il peut y avoir aussi, ce qu'on a dit, des textes hétérolingues. Donc là, on a affaire à plusieurs langues, mais distinctes, en fait. C'est ça, où l'on peut reconnaître. Peut-être pas forcément distinctes, mais on va reconnaître, c'est ça? Parce que c'est difficile, finalement,
de
distinguer tout ça.
Bah oui, non, mais bien sûr, il y a un texte que j'aime beaucoup de Norbert C. Philip Zong, où elle appuie justement sur cette difficulté parfois de reconnaître, par exemple, une seule langue dans un mot. Donc un mot peut donner plusieurs langues à la fois. Voilà, je cherche un bon exemple. Elle parle de egg, qui est une maladie, mais je ne sais plus qu'est-ce que ça donne dans d'autres langues. Mais je cherche un bon exemple. Voilà, une homographe bilingue qui donne des mots dans plusieurs langues à partir d'un signe. Et donc, dans un poème hétérolingue, on ne sait pas à quelle langue ça appartient. Donc, évidemment, brouiller des langues. Mais j'ai envie de dire qu'il y a cette rencontre de différences qui fait une friction, qui est le propre des langues. Enfin, je ne sais pas comment... Mais oui... Mais évidemment, au sein d'un seul poème hétérolingue, oui, complètement. Ouais.
Mais qui peut peut-être être moins visible, finalement, qu'entre différents arts ou différents médias, comme on disait, ou quand on traduit en danse. Mmh. Mais alors, peut-être qu'au sein des danses, il y a quand même aussi des choses, peut-être parce qu'on a l'impression qu'on catégorise là les choses en différents domaines, arts. Mmh. Mais est-ce que la pratique de la traduction, de la traduction expérimentale, c'est pas non plus... le fait de brouiller un peu les pistes là-dessus, lors de performances en particulier
De toute façon, je pense qu'on crée des distinctions et des frontières pour les brouiller. Enfin, j'ai pensé à Erin Moore qui parlait des frontières des pays et qu'elle n'est pas forcément contre les frontières. C'est pas ça, mais que dans une frontière, il faut qu'il y ait une porosité. En fait, c'est cette porosité qui donne le sens à la frontière. Donc, quand je fais une distinction entre traduction expérimentale et autre chose, c'est évidemment pour le tester, pour le percer. Mais oui, c'est toujours difficile de classer ou de catégoriser des choses en traduction. Notamment parce que, c'est une rencontre... même signifiant ou signifié, c'est très difficile à séparer en traduction, par exemple. Mais voilà. Mais cette distinction, j'ai fait pour moi, pour ma propre saineté d'esprit, parce que sinon, où est-ce qu'on arrête
C'est très intéressant, cette notion de frontière dont on ne peut pas faire fi et qui, en même temps, est nécessaire, en fait, dont il ne faut surtout pas se débarrasser.
Ouais, ouais.
Il ne s'agit pas, en fait, d'aplatir ou de ni de nier en fait le côté conflictuel en fait le côté la friction justement rugueux j'allais dire rugueux de cette expérience
tu m'as fait penser à une étudiante que j'avais qui écrivait sur le troisième espace, ou tierce espace, le troisième espace de Gomik et Baba. Elle a dit dans le tierce espace, il n'y a plus de frontières. Je dis, mais c'est pas ça du tout, c'est le contraire de ce qu'il dit. Enfin, c'est cet espace de lisière qui est la frontière. S'il n'y a plus de frontières, cet espace disparaît complètement. C'est pas ça du tout. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, le sens d'opposition que j'ai envie de donner à la traduction expérimentale, donc c'est-à-dire opposer pour vivre dans cette entre-deux de la norme et ce qui s'oppose. C'est pas juste pour opposer, mais pour être dans cet espace compliqué qui voit la limite de la norme sans pour nier la norme.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est jouer avec aussi.
Oui.
Et c'est pas l'entre-deux au sens de ventre mou, c'est l'entre-deux au sens de lisière et de lieu de contact, de zone. Enfin, tout ça sont des termes, évidemment, qu'on entend beaucoup dans la théorie de la traduction. Mais...
Oui.
Et le jeu, c'est un procédé, c'est un recours. Comment il s'articule avec la traduction expérimentale?
Le jeu, G-E-U.
Oui, mais on peut parler aussi du jeu, G-E-U.
On aime beaucoup jouer, c'est vrai, on aime beaucoup jouer. Mais je pense qu'il y a une partie qui est l'héritage de l'Oulipo, clairement. et d'autres procédés, d'autres pratiques ou héritages de mécanique. Et donc, c'est là aussi que je pense qu'il y a l'influence de la technologie, qui n'est pas non plus la technologie influe la littérature. Non, je pense qu'il y a, beaucoup de littérature qui ont anticipé, qui ont dévancé même les avancées technologiques. Et on voit qu'il y a un vrai va-et-vient entre les concepts ou les façons de découper le monde ou de mettre en relation des phénomènes dans le monde voilà, qui dévancent les avancées technologiques. Et puis, c'est un dialogue, c'est un va-et-vient. Donc, il y a ce truc d'automatisme, des trucs automatiques ou les mots d'emploi ou d'énumérer des différentes étapes et de voilà, mettre en marche des choses de façon automatique et voir ce qui est produit de façon un peu dada, un peu aléatoire, selon les règles qu'on a mis en marche un peu comme une machine. Donc je pense que les jeux, ça vient de là aussi, puis le désir de collaboration, et puis recherche-création aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers. Donc on voit qu'en recherche-création, dans des manifestations de recherche-création par exemple, on va voir beaucoup plus d'ateliers que de conférences ou d'interventions par un désir de collaborer, mais aussi de mettre l'accent sur le processus. Le processus. Voilà, de mettre l'accent sur le processus et qu'on fabrique ensemble quelque chose au lieu de venir présenter quelque chose qu'on a fait en amont. Et donc d'être toujours dans cette ambiance de travail en cours, de chantier et de laboratoire ensemble. Et donc moi j'aime bien penser à, enfin moi je fais plus de conférences, j'adore dire ça aux gens parce que ça les brusque un peu, enfin ça les, parce que je suis universitaire et je suis censée donner des interventions et des conférences, je les fais plus, je fais des ateliers, mais ce que j'aime bien c'est créer une sorte d'ambiance de qui est à mi-chemin entre l'atelier et le happening et un rituel spirituel quand je veux. Voilà, qui est un autre espace d'être ensemble et d'être dans le savoir et le partage de savoir autrement que le modèle de transmission d'un savoir préfabriqué. En fait, de présenter le savoir comme quelque chose de statique. Tout ça, c'est mis en question par la recherche-création. Et donc, du coup, le jeu, c'est effectivement une des choses qui apparaît régulièrement dans des ateliers recherche-création, complètement. Ouais.
Et à t'entendre, on a l'impression que ça donne une grande place à la poésie, là où on a l'impression que plus personne n'en lit, que ça n'intéresse pas grand monde, qu'on connaît peu de gens qui se disent poètes ou de manière... Donc, est-ce que ça promeut la poésie qui bat de l'aile, enfin, si on en croit les rayons de certains libraires, mais qui bat peut-être pas tant de l'aile, je ne sais pas.
Ben, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que la poésie n'existe plus. Je pense qu'on est dans une époque très musicale et sonore de la poésie, justement, et on a oublié d'appeler ça poésie, en fait. On a oublié que ça s'appelle poésie. Mais voilà, les pratiques que je connais mal, hein, de hip-hop et de rap et tout ça, enfin, ce sont de la poésie. Enfin, la poésie avant l'imprimerie, par exemple, était chantée et était accompagnée. Donc voilà, c'est tout à fait normal que la poésie soit accompagnée par la musique. Et ce qui se passe dans la majorité de la poésie qui est écoutée par la plupart des gens aujourd'hui. Mais on a aussi cette pratique de poésie à l'écrit, mais qu'on met en voix aussi. Et évidemment, ces poésies qui sont accompagnées par la musique, qui sont aussi imprimées dans des brochures d'albums ou en ligne partout. Donc il y a une sorte de va-et-vient entre l'écrit et la voix qui s'articule différemment dans différents réseaux de poésie. Mais donc du coup, je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition que les gens n'aiment plus la poésie. ont moins plus d'expérience avec la poésie, mais effectivement il y a cette espèce d'a priori où ouais que la poésie, enfin moi-même je le dis souvent, oui donc j'écris de la poésie pour ne pas être lue et etc et machin, voilà mon livre a été acheté par mes 10 amis les plus proches et même pas ou lu pas acheté mais lu. Ou bien avec les étudiants, enfin, on entend ça souvent, hein, pour pas faire, par exemple j'interviens beaucoup en LEA, donc langues étrangères appliquées, qui est un parcours professionnalisant de langue, et interdiction totale de faire de la poésie selon mes collègues, mais moi je trouve que la poésie ça marche ultra bien, enfin surtout la poésie expérimentale en utilisant des outils technologiques ou en passant par les procédés automatiques, en passant par les jeux, etc. Ça marche ultra bien avec des étudiants en LEA comme en LCER, et c'est en fait les raisons pour lesquelles les étudiants ne s'intéressent pas à la poésie, c'est parce qu'on leur a dit qu'ils ne s'intéressent pas à la poésie. En fait c'est la même chose qu'avec les enfants et les légumes, ils n'aiment pas les légumes parce qu'on leur a dit que en fait, les menus enfants c'est des nuggets de poulet et des frites et... mais en fait ils aiment les légumes comme les étudiants aiment la poésie, en fait ils peuvent tout à fait aimer la poésie. Mais voilà, il y a cette espèce de constat. Mais justement, je pense que l'écriture expérimentale, ça peut briser tous les côtés ludiques et jouer avec des dispositifs autres que des mots imprimés sur une page, par exemple. Ça s'ouvre justement à inviter plus de personnes à une plus grande diversité de pratiques poétiques.
Et on n'a pas parlé chansons ?
Oui, tout à fait. Enfin, oui. On chante souvent. Enfin, déjà, on chante souvent nos poésies expérimentales. Voilà, je me suis beaucoup amusée, par exemple, à créer une langue chantée par des extraterrestres dans un roman que j'ai écrit qui sera peut-être jamais publié, mais qui consiste à prendre des bouts des phrases et de les imiter, de les reprendre en boucle et de faire des espèces de pistes de chansons à plusieurs pistes avec des syntagmes répétés en boucle rythmique. On a appelé ça cette forme la messe aussi dans les performances, donc ça crée des espèces de poésie chorale par exemple. Mais on peut aussi chanter la poésie sonore pour faire des chansons aussi. Quoi d'autre, plein de choses. Quoi.
Et donc même ce mot, la messe, c'est évidemment... enfin, là ou le, bien sûr. Messe, c'est évidemment un jeu entre les langues.
Oui. Non, mais multilingue, oui, complètement. Oui. Et de traduire, de prendre un bout de texte et puis de le traduire, et de le traduire, le traduire. Mais voilà, dans la langue extraterrestre, c'est ce qu'on appelle en outre-mer une néo-traduction. Donc l'idée, c'était de créer une langue sans signifier. Je voulais dire un autre truc. Ah, messe, oui, c'est aussi messe en anglais.
Oui, j'entends que deux langues. Oui. Je n'entends que deux langues, moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
Ah, sans doute, oui. Enfin, sans doute, plein, oui. Enfin, il y a aussi... parce que dans le livre que je prépare, je me propose aussi des procédés de traduction expérimentale que les gens peuvent faire chez eux ou en salle de classe ou machin. Et donc, il y en a un qui est de prendre un mot et de l'énumérer dans le maximum de langues possibles. Voilà, donc... Enfin, un mot au sens, le son d'un mot, pas le sens d'un mot, bien évidemment.
La poésie est toujours de l'inverse,
pourquoi pas, prendre un sens et l'énumérer dans le plus de langues possibles, ce serait aussi intéressant.
Très bien.
Et on a parlé du jeu JEU et le jeu JE, du coup, qu'est-ce que l'intime, justement, va apporter à la traduction expérimentale, si ça apporte quelque chose?
Intéressant. Un contact avec une langue, c'est très intime aussi, parce qu'on se situe toujours aux langues par rapport à notre corps se situe au moment précis où on est face à cette langue. Et on peut avoir des niveaux très différents d'intimité avec une langue, langue maternelle, ou langue apprise, ou langue qu'on ne parle pas, ou voilà, tout ça. Donc chacun approche la traduction et les langues avec une intimité. Mais la traduction expérimentale est très collaborative souvent. Enfin, les procédés que je propose dans mon livre, c'est pour la plupart, il y a des players, enfin des joueurs en fait, je parle comme ça, et j'énumère les joueurs de chaque procédé, et donc souvent il y en a plusieurs, mais il y en a d'autres qui peuvent se faire, ou peut-être tout en fait, peut se faire tout seul en fait, aussi. Enfin, moi j'en fais beaucoup tout seul. Mais il y a aussi évidemment de l'intime dans la collaboration, bien sûr, parce que encore une fois, chacun arrive avec leur corps et leur santé et leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager ou pas partager, les relations qui existent avant d'entrer dans le jeu, tout ça c'est très important à prendre en compte aussi, j'ai envie de dire.
Et quel est cet engagement du corps, du coup, dans la traduction expérimentale, dans la recherche-création?
Bon, ça, c'est très personnel, mais j'ai aussi un héritage d'études de genre. Et donc, du coup, j'ai tendance à articuler la recherche avec une prise en compte du corps de la chercheuse, de la personne qui fait. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, les sentiments et la forme de son corps, les envies de mouvement ou d'immobilité, etc. Mais aussi de ce que son corps représente. On arrive dans une salle avec d'autres personnes. Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on n'est pas à l'aise? Pourquoi? Voilà, je pense à Sarah Ahmed qui parle de la chaise. Qui prend la forme d'un corps. Donc, des corps peuvent arriver dans un espace, dans une siège, par exemple, et s'asseoir, et bon, ça prend la forme parfaitement. Et après, il y a d'autres corps qui arrivent qui n'ont pas la forme de la chaise, en fait. Et ça va nous dérouter. Et quelqu'un va entrer dans une salle et on va dire, ah, cette personne a la tête d'un enseignant-chercheur, par exemple. Ou cette personne n'a pas la tête d'un enseignant-chercheur. Et pourquoi ? Parce que voilà, le monde prend la forme des corps, et donc de situer les corps dans cet espace public et politique aussi, et de prendre ça en compte. Donc ça fait partie de la démarche politique aussi de ces procédés et aussi de la partie enseignement pédagogique. Comment accueillir des gens sans déjà nier cette dimension de corporalité et de politique, et aussi pour accueillir le plus de monde, ou même de façon contraire, c'est-à-dire, par exemple, les stratégies d'exclusion linguistique. J'en ai parlé avec quelques amis récemment, ils ont dit, ah oui, mais l'anglais, tu parles anglais, et plus ou moins tout le monde comprend. J'ai dit, en fait, non. En fait, on a cette a priori, parce que l'anglais joue ce rôle de non-langue presque. Et donc, c'est parfois bien de mettre les anglophones dans une position où ils comprennent rien, où ils comprennent très peu, où ils sont mis à l'écart. Parce que justement, ils ont l'habitude d'être accueillis partout, de comprendre tout, de la lisibilité général, donc les mettre dans une situation de illisibilité ou d'exclusion, de manque d'accès, ça peut être intéressant pour plein de raisons poétiques et politiques. Et peut-être ça peut ouvrir un espace pour des gens qui sont pas à l'aise ou qui sont pas accueillis. Voilà, si on met à l'écart des gens qui sont normalement très à l'aise. Voilà, ou même juste visibiliser le fait que certaines personnes sont à l'aise et d'autres non, et on se pose souvent même pas la question, surtout si on est quelqu'un qui est à l'aise.
C'est intéressant parce qu'on a l'impression à t'entendre que la langue anglaise demande moins de justification, ou en tout cas que ça peut amener certains anglophones à penser d'entrée de jeu, j'allais dire, qu'ils vont être compris, c'est beaucoup de généralité là ce que je dis, mais qu'en fait la langue anglaise a cet effet de lisibilité, mais qui peut être trompeuse, et donc on peut très bien ne pas se faire comprendre quand on parle anglais, mais ça n'incite pas à s'expliquer, j'allais dire.
Oui.
Alors qu'en fait, peut-être qu'on sera plus propice à justement, pas se justifier, mais à expliquer ou à dire autrement, à reformuler, à revoir ce que l'on a dit dans d'autres langues.
Ouais.
Et ça, je ne sais pas si ça influe en fait sur même la manière de parler une langue finalement.
Oui, oui, complètement. Bah, donc, dans le livre que je prépare, je parle beaucoup de la langue anglaise parce que c'est... C'est là où je me situe et même c'était qu'à mi-chemin de l'écriture de ce livre, je me suis rendu compte que ce n'était pas un livre sur la traduction, c'est un livre sur l'anglais. Et ça m'a pris la moitié de la rédaction pour comprendre en fait. Et ça en dit beaucoup parce qu'il y a une sorte de, oui, d'invisibilité de la langue anglaise où on a tendance à la considérer comme pas une langue presque. De la même manière qu'on peut considérer la masculinité comme pas un genre, ou la blanchitude comme pas une race. Enfin, je veux pas comparer les violences, j'assimile pas les violences, je veux pas dire que ça a le même, c'est la même échelle de violence, mais c'est une opération d'aveuglement et de non-visibilité de la langue anglaise comme étant pas une langue, que l'opération est similaire. Et donc, mais je pense que, comme ce qu'on a dit pour l'opposition, l'anglais aussi, ça se défait au sein d'elle-même parce qu'elle est tellement large et tellement englobant et elle oublie plein de choses. Et, mais du coup, ça laisse aussi beaucoup de porosité. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu écrire un livre qui est presque terminé sur la traduction, qui est en fait sur l'anglais. mais c'est aussi parce que je ne me suis pas assez bien située. Donc il fallait revenir en arrière pour mieux me situer, mais aussi parce qu'il y a une telle porosité de l'anglais que ça accueillit plein. T'as déjà l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il y a plein de anglais, enfin c'est les anglais qui sont même parfois même pas intercompréhensibles entre elles. Enfin on a mis les sous-titres en bas de Trainspotting par exemple. Voilà, et puis plein de langues qui se créent à partir de l'anglais ou influencées par l'anglais. Est-ce que c'est de l'anglais? Est-ce que ce n'est pas de l'anglais? Est-ce que c'est une langue séparée? Est-ce que c'est un pidgin? Est-ce que c'est un créole? Enfin, il y a plein de porosité et puis des langues qui se mélangent. Enfin, l'espagnol, anglais, des chicanos et des chicanas, par exemple, des États-Unis, c'est une langue très, très hétérolingue qui accueille beaucoup d'anglais, mais aussi beaucoup d'espagnol et puis beaucoup de tournures qui viennent des langues indigènes ou d'autres sources. Et donc, l'anglais, j'ai envie de dire ça se déconstruit, mais voilà, ça se détourne au sein d'elle-même, un peu comme le capitalisme, en fait, parce que c'est la langue du capitalisme aussi, l'anglais. Donc, il faut parler autrement, du coup.
Merci, Lily.
Bah, merci à vous pour cette super occasion de discuter.
Bah, merci pour ces réponses très intéressantes.
Nous tenions à remercier Lily pour la richesse de cet échange et toutes ses pistes de réflexion.
Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt !